Deux orphelines, cinquième partie, chapitre 1. En quittant Marianne sur le pont du Brick le Glorieux, le chevalier de Vaudrey avait, ainsi qu'on l'a vu, rejoint son domestique sur le quai, où les deux hommes étaient demeurés jusqu'à ce qu'il ne leur fût plus possible de voir le navire qui se dirigeait vers la haute mer. Picard, on se le rappelle, était profondément affligé de n'avoir pas réussi, ainsi qu'il l'avait espéré, à rendre à son maître cette Henriette qu'il espérait trouver parmi les femmes composant le convoi des exilés. Aussi le pauvre diable de valet s'était-il senti soulagé d'un grand poids lorsqu'il avait vu son maître revenir de sa visite à bord, le visage moins attristé. Il avait deviné, à première vue, que Roger devait avoir appris quelque chose d'important concernant sa bien-aimée, que tout au moins il avait arrêté un plan pour l'avenir. Donc, il ne sursauta pas, selon son habitude, lorsque le chevalier lui dit, après avoir envoyé un dernier regard au navire qui s'enfonçait dans la brume. « Maintenant, nous allons nous remettre en route. »«
Pour Paris ?» s'informa Picard.
« Et immédiatement !»«
Partons sur l'heure, à la minute, mon doux maître. »
Et comme s'il eût été prêt à prendre son élan, « Je vais, précédant monsieur le chevalier, courir à l'écurie, faire seller nos bêtes. »
Roger l'arrêta par le bras.
« Bon, te voilà déjà parti en route pour Paris. »«
C'est que je suis si pressé, monsieur le chevalier, pressé de revoir notre chère bien-aimée, qui ne doit rien comprendre au retard que nous mettons à aller la rejoindre. »
Monsieur de Vaudrey haussa les épaules. « Pauvre Picard, soupira-t-il. Je vois bien que tu es le plus dévoué des serviteurs et que tu donnerais ton petit doigt. »«
Tous mes doigts !» interrompit le valet.
« Et les pouces avec, puis les bras, mon corps tout entier, ma vie pour mon maître. »
« Le jeune, bien entendu. »«
Ah, tu te souviens donc que tu en as un autre, un terrible maître. Et en t'exaltant comme tu viens de le faire, tu oublies que nous allons courir tous deux au-devant du danger qui nous menace à notre arrivée à Paris. »
« Ah, corne du diable, c'est la pure vérité, et je n'y pensais pas. Dans notre enthousiasme, à courir auprès de notre chaste et pure fiancée, nous négligions les règles les plus élémentaires de la prudence. En un mot, nous allions nous précipiter tête basse dans la gueule de monsieur le lieutenant.
Dans la gueule du loup, veux-je dire. »
Picard s'interrompit avec un geste respectueux. « Que monsieur le chevalier ne se méprenne pas sur l'expression qui vient de m'échapper. Je n'ai pas eu l'intention de faire une allusion irrespectueuse à... »
Roger eut un sourire.
« Allons, allons, » fit-il. « Tu es tout troublé, mon vieux Picard, et on le serait à moins. Te trouver, à ton âge, mêlé à de si dramatiques aventures. »
« À mon âge ?» riposta le valet avec une animation comique.
« À mon âge ? Mais, mon maître, j'ai du sang de 20 ans dans les veines et des jambes d'adolescent. Lorsqu'il s'agit de faire quelque chose d'utile pour le service de monsieur le chevalier. »
Et en parlant ainsi, le pauvre diable s'efforçait de redresser son échine menacée de lumbago depuis qu'il avait parcouru à cheval la distance de Paris au Havre de Grâce, et il dissimulait autant que possible la douleur rhumatismale qui cramponnait son mollet et le faisait tirer quelque peu la jambe. Roger eut un regard de compassion pour ce serviteur dévoué. Jusque-là, le chevalier, sous l'influence du chagrin qu'il éprouvait, de l'incertitude qui le tenaillait, n'avait pas rendu à l'homme qui se dévouait et se perdait pour lui toute la justice qu'il méritait. Mais à présent qu'il était presque rassuré sur le sort d'Henriette, après la conversation qu'il venait d'avoir avec la déportée, Roger songeait enfin à reconnaître la valeur des services rendus et à récompenser celui qui s'était chargé d'une tâche si difficile à accomplir. Il avait, tout en parlant, modéré le pas. Devant la porte de l'hôtellerie, il dit à Picard « Va t'occuper des chevaux, pendant que je réglerai notre dépense. » Et il ajouta, en manière de correctif, à la mauvaise impression qu'il avait manifestée précédemment « En route, nous aurons tout le temps d'arrêter un plan pour ne pas tomber entre les mains des agents de police. Que notre oncle vindicatif n'aura pas manqué de mettre à nos trousses. » Puis s'animant de nouveau « Mais nous les dépisterons. Nous éventerons leurs ruses. Nous jouerons au plus fin avec M. Marest et toute sa clique. Vous pouvez vous en rapporter pour cela à votre humble et dévoué serviteur, M. le Chevalier. Et Picard sortit avec un geste qui voulut rendre majestueux. Mais en dépit des fanfaronnades du vieux domestique, le chevalier de Vaudreuil n'était rien moins que rassuré. Il savait bien Henriette libre, grâce au dévouement de la malheureuse qui s'était sacrifiée pour elle, mais il redoutait tout de la colère du lieutenant de police. Outre que M. de Lignières pourrait, d'un moment à l'autre, apprendre qu'il avait été joué, la liberté qu'avait recouvrée Mademoiselle Gérard dans de semblables conditions n'était pas une solution au projet de mariage caressé par Roger. Celui-ci ne pouvait se dissimuler que la jeune fille serait plus que jamais opposée à un acte qui brouillerait pour toujours l'oncle et le neveu, sans préjudice de malheurs encore plus grands. Aussi, le chevalier, en se remettant en route pour Paris, était-il peu à peu retombé dans de pénibles réflexions. Après la fièvre qui l'avait agité lorsqu'il poursuivait le convoi des exilés dans l'espoir de délivrer Henriette, un morne abattement l'envahissait maintenant. Les premières étapes furent parcourues sans que Picard osât interrompre les méditations de son maître. Au surplus, n'était-il pas lui-même tout à fait absorbé dans des pensées rien moins que joyeuses? En réfléchissant à son équipée, il se voyait comparaissant devant le maître qu'il avait trahi, ne sachant que répondre à l'interrogatoire qu'il lui ferait subir, puis enfin à la Bastille, où il se retrouverait en présence de ce Rumignac qu'il avait joué et qui lui ferait payer cher cette mystification. Il se disait que c'était là une retraite peu digne pour le serviteur resté tant d'années dans la famille des Vaudreuil. Et toutes ces idées ne pouvaient assurément pas le rendre bien gai. Aussi son visage se renfrognait-il visiblement après chaque étape parcourue. Le voyage menaçait de devenir de plus en plus triste. Tout à coup, le chevalier, changeant d'attitude, voulut de lui-même entamer la conversation. « Hola, Picard, » dit-il, « pousse ton cheval à côté du mien, afin que nous causions un peu. » Le valet donna du talon contre le ventre rebondi de la bête qui trotta menu. « Me voici, maître, » fit-il. « Voyons, mon ami, » commença Roger, « nous devons, je crois, avant tout, prendre nos dispositions pour nous épargner une méchante histoire en arrivant à Paris. » « C'est juste. » « Oui, mais comment t'y prendrais-tu ? » « Le plus simple serait de... » Comme il ne s'attendait pas à la question, Picard, qui voulait toujours avoir réponse à tout, avait commencé la phrase sans savoir comment il la terminerait. Il s'interrompit donc pour réfléchir. Et comme c'était un rusé bonhomme, rompu depuis longtemps à toutes les malices et aussi à certaines petites capitulations de conscience, il ne restait presque jamais quoi lorsqu'il faisait appel à son imagination. Cette fois, pour être plus long et plus pénible, le travail intellectuel auquel il se livra pendant que le chevalier attendait patiemment la réponse ne demeura pas stérile. « Oui, » dit-il, répondant à la pensée qui lui était venue, « il sera indispensable, à mon avis, que nous nous séparions avant d'arriver à la porte de Paris. » Roger approuva d'un signe de tête. « Monsieur le chevalier ne croit-il pas qu'une extrême prudence, en ce cas, doit servir de guide à nos moindres actions? Par conséquent, il est à mon avis indispensable que nous entrions dans la capitale, chacun par une porte différente. Après, demanda Roger, après, nous manœuvrerons de façon à nous cacher le plus possible, d'abord des exempts, ensuite des gens que nous connaissons, car il n'y a pas à se dissimuler que notre équipée doit être connue depuis longtemps et qu'elle doit aujourd'hui encore défrayer toutes les conversations. « Soit, fit le chevalier, nous nous séparerons à la dernière étape. Tu rentreras par la porte de Versailles, et moi je contournerai. Enfin, c'est mon affaire. Mais il faut, si l'un de nous deux était arrêté par ordre de monsieur le lieutenant de police, il faut que l'autre puisse agir et retrouver Henriette. Vous la retrouverez, mon cher maître, chez l'excellent docteur Hébert. Et si vous ne me revoyez pas, c'est que je gémirai sous les verrous. Car si je suis reconnu et arrêté, il n'est pas vraisemblable que monsieur le comte de Lignières, que j'ai trahi, me permette de continuer à vivre dans son hôtel. Il m'enverra en villégiature dans un cachot de la Bastille ou du donjon de Vincennes, peut-être même dans un cabanon de Bicêtre. Enfin, conclut Roger, convenons à tout hasard d'un endroit où nous pourrons nous rencontrer sans être exposés à être reconnus. Dans une église quelconque. On est bien sûr que monseigneur le lieutenant de police n'enverra pas là ses agents où il n'aurait que faire, étant donné la bonne clientèle de l'endroit. Soit, à Saint-Nicolas-des-Champs. Bien trouvé, mon bon maître. On ne rencontre là que de vieilles dévotes qui ne lèvent jamais le nez de dessus leur paroissien.
À 6 heures, continua le chevalier. Excellente heure.
La prière du soir, pendant laquelle chacun pense au souper qui l'attend et ne s'occupe guère de ce qui se passe autour de lui.
Voilà qui est convenu.
Pour le soir même de notre arrivée à Paris.
Entendu.
Et Picard, tout régaillardi, taquina si vigoureusement des talons le ventre de sa monture que celle-ci ébaucha un temps de galop. Il faut reconnaître que dans ce voyage, le retour ne ressemblait guère à l'aller. Les deux cavaliers ne surmenaient plus leurs chevaux comme autrefois, alors que les malheureuses bêtes arrivaient couvertes d'écume et les flancs déchirés au relais. Par contre, si sa monture marchait au pas, l'imagination de Picard galopait en diable. Tandis que Roger ne pensait qu'à retrouver Henriette, Picard, avec son bon sens d'une part, sa finesse instinctive de l'autre, ne se faisait pas d'illusions sur les difficultés qu'il faudrait encore surmonter. C'est dans ces conditions que s'accomplit ce voyage. Ainsi qu'il avait été convenu, à la dernière étape, les deux compagnons se séparèrent. Nous laisserons Picard pénétrer seul dans Paris par la porte de Versailles pour suivre le chevalier de Vaudrey. Demeuré seul, Roger fit halte devant la première auberge qu'il rencontra sur la route. C'était le rendez-vous des rouliers qui s'y livraient à de copieuses libations, presque toujours suivies de querelles et de scènes de pugilat. Il y avait danger pour un gentilhomme, s'il était reconnu, à se rencontrer avec ces individus qui ne demandaient pas mieux, la piquette aidant, que de chercher noise aux voyageurs égarés dans ce taudis. Aussi le chevalier ne demeura-t-il dans l'auberge que le temps de se renseigner sur le chemin le plus court pour arriver à la Seine du côté de la rive droite. Il enfourcha de nouveau son cheval et piqua des deux. Le crépuscule commençait comme Roger arrivait à la hauteur du faubourg Saint-Honoré. Les rues étaient en ce moment de la journée remplies de passants, employés, ouvriers ou badauds regagnant leur gîte. Au milieu de tout ce monde, il y avait chance de passer inaperçu, à condition toutefois de ne pas chevaucher d'une allure trop rapide. Se débarrasser de sa monture fut la préoccupation du cavalier, qui, avisant une hôtellerie qui portait l'enseigne traditionnelle « Ici, on loge à pied et à cheval », s'y arrêta pour dîner. Le chevalier demanda une chambre et fit mettre son cheval à l'écurie, annonçant qu'il ne reviendrait probablement que fort tard dans la soirée, peut-être même dans la nuit. Comme il payait grassement, l'hôtelier le salua très bas, l'accompagnant jusqu'à la porte. Qu'allait faire Roger? C'est ce qu'il se demanda en se retrouvant perdu dans la foule sur le pavé de Paris. Se rendre immédiatement chez le docteur Hébert fut sa première idée. Il ne doutait pas que le médecin de la comtesse de Lignières ne le reçût admirablement, en dépit de son aventure qui a vu tant de retentissements, et de son évasion de la Bastille qui n'avait certainement pas dû faire moins de bruit à la cour. Du reste, pour retrouver Henriette, il n'avait pas le choix des moyens, et c'était sur la bienveillance du médecin de la Salpêtrière qu'il devait compter. Tout en se dirigeant vers la demeure du célèbre praticien, il se berçait de l'espoir qu'il pourrait ce soir-là même se rencontrer avec l'infortuné dont il avait si gravement, par son amour, compromis la sécurité et brisé la vie. Il se reprochait amèrement de l'avoir laissé seul aux prises avec les agents du lieutenant de police. « Ah » pensait-il, « s'il avait été là, il eût défendu la pauvre enfant comme il avait fait une première fois au pavillon du Bel Air, l'épée à la main. Il se serait fait tuer plutôt que de l'abandonner aux exemples qui l'avaient entraîné comme une prostituée, elle, si vertueuse, si digne de respect. » En évoquant ces douloureux souvenirs, le chevalier sentait son sang battre précipitamment dans ses artères. La colère lui montait au cerveau, comme le jour où son oncle l'avait fait enlever et enfermer à la Bastille. Certes, si en ce moment il eût rencontré Marest ou l'un de ses agents, il se fût jeté sur lui, oubliant toute prudence. Sous l'impression des idées de violence, Roger avait doublé le pas, marchant comme un fou et se parlant à lui-même. C'est dans ces dispositions d'esprit qu'il arriva à l'entrée de la rue où se trouvait l'hôtel du docteur Hébert. Alors, il s'arrêta pour se remettre de l'émotion qu'il éprouvait depuis qu'il était parti de l'auberge et qui s'était accrue à chaque pas. Il ne pouvait se présenter dans l'état de trouble où il était, devant le médecin, dont il allait solliciter la bienveillante assistance pour retrouver Henriette. Ce ne fut donc qu'après avoir laissé s'apaiser son sang, et lorsqu'il se retrouva maître de lui-même, qu'il se dirigea vers la demeure du docteur. Avant de soulever le lourd marteau d'airain de la porte cochère, il réfléchit encore au résultat que pouvait avoir la démarche qu'il allait faire. 1000 pensées, 1000 craintes nouvelles tourbillonnaient dans sa cervelle. Il dut faire sur lui-même de vigoureux efforts pour maîtriser ses appréhensions. Il y parvint enfin, et d'une main tremblante, il souleva le marteau qui retomba lourdement avec un bruit sourd. Depuis le jour où Henriette, conduisant l'aveugle, les deux orphelines étaient venues elles aussi frapper à la porte du docteur Hébert, le célèbre praticien n'avait cessé d'avoir pour elle toute la sollicitude du meilleur des pères. Tout entier livré à l'étude pendant sa jeunesse et se consacrant plus tard corps et âme à ses malades, le médecin avait, pour ainsi dire, oublié de se marier. Ce n'est pas qu'il n'eût, grâce à sa science et à son habileté, atteint rapidement une célébrité qui le mettait en évidence dans la haute société où il eût pu contacter un grand mariage. Mais le docteur avait pour amante cette exigeante que l'on nomme la science, laquelle prend tous vos instants, captive votre pensée, devient jalouse du moindre écart fait en dehors de son rayonnement, et sait vous ramener impérieusement à elle pour vous asservir plus étroitement encore. Le besoin d'étudier sans cesse l'absorba donc tout entier. Lorsqu'il avait acquis quelques connaissances nouvelles et qu'à force de travail il était parvenu à découvrir un des nombreux secrets de la science, il s'en allait à l'Académie de médecine et à l'hôpital Saint-Louis enseigner à ses élèves ce qu'il venait d'apprendre lui-même. Et c'est ainsi que tout son temps se trouvait si bien et si utilement employé qu'il n'en pouvait plus distraire même une heure pour la consacrer à lui-même. Demeuré vieux garçon jusqu'à la limite d'âge où l'on peut encore convoler, il se promit de n'avoir pour famille que ses malades, qui l'entouraient des soins les plus assidus, comme s'il eût fait pour de véritables parents. Les enfants, principalement, le trouvaient, s'oubliant longtemps à leur chevet, les disputant à la maladie. Et lorsqu'il arrivait qu'un de ces pauvres petits êtres succombait malgré les trésors de science dépensés pour tenter de le sauver, le docteur Hébert emportait le deuil dans son cœur. Les malheureux, ainsi qu'on a pu le voir dans le courant de ce récit, avaient une large part de soins et d'aumônes, soit qu'ils s'adressassent directement au docteur, soit que celui-ci les trouvât à l'hôpital Saint-Louis, dont il était le médecin en chef. Jamais la charité de cet homme de bien n'avait fait défaut à personne. Elle s'était même égarée quelquefois sur des misérables indignes de pitié, comme l'étaient les Frochards. Mais le docteur préférait dépasser les limites de la charité plutôt que de s'exposer à rester en deçà. On comprend que dans les conditions où elle se présentait chez le docteur Hébert, les deux orphelines devaient y trouver l'hospitalité la plus affable. On sait que le docteur avait été appelé à donner des soins à Henriette à la Salpêtrière, le premier soir de l'arrivée de cette malheureuse enfant dans la prison. Lorsqu'il l'avait vue à l'infirmerie où elle avait été conduite d'urgence, le clairvoyant praticien n'avait pas tardé à reconnaître que cette jeune fille ne ressemblait en rien aux hôtes habituels de ce lieu de détention. Il y avait dans l'exaltation et la douleur de la malade quelque chose de si poignant que M. Hébert en avait fait l'observation à sœur Geneviève. Plus tard, quand il eut connaissance du sacrifice que se proposait Marianne pour sauver Henriette Gérard, il avait collaboré à cette bonne action en suppliant la supérieure, terrifiée à l'idée de faire un pieux mensonge, de prendre en pitié une innocente. À partir de ce moment, le bon docteur s'était promis de devenir le protecteur de cette infortunée qui n'avait plus de famille. Enfin, comme si la Providence eût désigné pour devenir le sauveur des deux orphelines, il avait pu indiquer à Henriette, qu'il venait de délivrer de la prison, le lieu où était séquestrée la pauvre aveugle qu'il s'agissait d'arracher des griffes de la Frochard. « J'ai vraiment du bonheur aujourd'hui, » se disait-il en rentrant à son hôtel. « Me voici deux pensionnaires nouvelles pour mon hospice particulier. On n'est pas plus heureux. » Et M. Hébert s'était frotté les mains avec une vigueur toute juvénile, comme il avait l'habitude de faire quand il était content de sa journée. Donc, Henriette et Louise furent on ne peut plus choyées par tout le monde dans cet hôtel, depuis le maître jusqu'au plus modeste parmi les infirmiers composant le personnel de la partie de l'immeuble réservée aux malades que le docteur voulait soigner chez lui. Pour Louise, c'était une vie nouvelle qui commençait après l'effroyable existence à laquelle l'avait condamnée la Frochard. L'infortunée semblait relever d'une longue maladie. La pauvre créature avait vite oublié les malheurs inouïs qui s'étaient abattus sur elle, du moment qu'elle avait retrouvé sa sœur bien-aimée, qu'elle avait cru à jamais perdue pour elle, pour qui elle avait tant prié, tant pleuré. Pendant les premiers jours de cette existence nouvelle, il n'y eut place dans son âme que pour la joie d'être auprès d'Henriette et pour la reconnaissance envers la Providence qui avait exaucé ses prières. Que savait-elle de la généreuse intervention du docteur et de la part si grande qu'il avait prise à sa délivrance? Certes, elle ne devait pas tarder à bénir celui qui avait joué un rôle si important dans sa vie, mais pour le moment, elle se croyait de sa part simplement l'objet d'une charitable hospitalité qui allait bientôt cesser. Elle était même tellement convaincue que son séjour chez le médecin ne serait pas de longue durée qu'elle avait, dès le lendemain, dit à Henriette « Maintenant que nous sommes réunis, ma sœur, et pour ne plus nous quitter, cette fois, qu'as-tu décidé que nous ferions ?» Et comme Henriette hésitait à répondre, l'aveugle reprenait en lui serrant les mains. « Nous avons été si malheureuses à Paris qu'il me semble que nous ne devons pas y demeurer plus longtemps. Dis-moi, petite sœur bien-aimée, si nous retournions à Évreux. » Puis, câlinement et prenant sa voix si douce lorsqu'elle s'adressait aux personnes affectionnées. « À Évreux, nous avons des amis, de bons amis de notre chère mère Gérard. Ah, pourquoi les avons-nous quittés ?» Elle était devenue rêveuse en pensant que c'était pour elle, pour essayer de lui rendre la vue qu'on avait entrepris ce voyage déplorable. Henriette ne l'avait pas interrompue. Que pouvait-elle lui dire sur l'état actuel de son esprit et de son cœur? Tout ce qu'elle essaya fut de persuader à Louise que, puisque l'on se trouvait à Paris et que la Providence les avait conduites chez l'un des plus grands médecins de France, il fallait profiter de cette bonne fortune inespérée. Elle insinuait ainsi à son amie d'enfance que le docteur voulait tenter une opération qui lui rendrait la vue. La pauvre aveugle s'était contentée de hocher tristement la tête en exhalant un soupir. Mais, pour ne pas attrister sa compagne, elle n'avait pas manifesté plus clairement le peu d'espoir qu'elle avait de revoir jamais la lumière. Et cependant, elle se souvenait qu'un jour, lorsqu'elle se trouvait, mendiant, à la porte d'une église, un monsieur s'était approché d'elle, avait attentivement regardé ses yeux et lui avait parlé avec une grande douceur. Louise se rappelait que ce monsieur lui avait dit qu'il était médecin. Elle se rappelait aussi qu'il l'avait questionnée, s'informant si elle était aveugle de naissance et si quelque docteur l'avait déjà soignée pour cette cécité. Puis le médecin s'était mis à parler bas à la Frochard, mais l'aveugle n'avait pu entendre ce qui se disait. Et comme elle avait interrogé la vieille mendiante, celle-ci lui avait répondu que le docteur affirmait qu'il n'y avait plus d'espoir de guérison. Aussi, lorsqu'Henriette lui eut dit quelles étaient ses espérances, « C'est donc pour cela, lui répondit l'aveugle, que tu ne veux pas retourner à Évreux ? Alors, ma sœur, j'attendrai avec patience, mais toi ?» Louise n'osait pousser plus loin ses questions, voyant combien Henriette avait mis jusqu'ici peu d'empressement à répondre. Elle avait respecté le silence de sa sœur, promettant à plus tard de provoquer des confidences sur ce qui avait pu tenir pendant si longtemps Henriette éloignée d'elle. Tout d'abord, en effet, dans la joie de se retrouver dans les bras de son amie, Louise n'avait pas interrogé comme l'idée eût dû lui en venir. Quant à Henriette, l'immense bonheur d'avoir réussi enfin après tant d'efforts infructueux l'avait tenue pendant quelques jours sous l'excitation d'une joie dégagée de toute préoccupation. Elle oubliait tout ce qu'elle avait souffert elle-même pour se réjouir d'être auprès de la pauvre chère créature à qui elle voulait faire maintenant une vie si douce. Aussi n'avait-elle songé dans ce premier moment de joie inespérée qu'à s'occuper des 1000 petits soins que réclamait l'état lamentable de Louise. C'est à présent qu'elle entrait dans la vie calme que l'infortunée ressentait les suites des mauvais traitements et des privations que la mégère lui avait fait subir. Henriette le savait bien, et aussitôt qu'un malaise se produisait, elle y apportait le soulagement. C'était son rôle de mère qui recommençait auprès de l'aveugle, car depuis la mort de Madame Gérard, elle n'avait pas cessé, on s'en souvient, de s'occuper de l'orpheline que ses parents avaient recueillie et élevée. Aussi, tout à cette préoccupation incessante, elle ne songeait point à elle-même. La réaction ne devait se produire que plus tard, lorsque, rassurée sur le compte de Louise, elle voyait d'heure en heure, pour ainsi dire, sa sœur se remettre de ses émotions et de ses fatigues. Elle put alors se rendre compte de la situation nouvelle qui lui était faite, depuis que, par suite du dévouement de Marianne, elle avait bénéficié d'une grâce qui ne lui avait pas été accordée. Bien qu'elle sût que le secret serait gardé par sœur Geneviève et par le docteur, elle se disait qu'il suffirait d'un malheureux hasard pour faire découvrir le subterfuge. Qui sait même si quelque captive de la salpêtrière, connaissant ce secret, ne parlerait pas. Dans ce cas, qu'adviendrait-il? Le lieutenant de police, furieux d'avoir été joué, ne manquerait pas de la poursuivre de sa colère avec plus d'acharnement que jamais. Et cette fois, personne n'oserait la protéger contre le courroux du tout-puissant personnage. On découvrirait bientôt sa retraite, et c'est des bras de Louise qu'on viendrait l'arracher. S'il en était ainsi, on l'embarquerait pour la Louisiane. Elle n'aurait plus cette fois Marianne pour la sauver de l'exil et de l'infamie. Cette idée avait pris une telle consistance dans l'esprit d'Henriette que la pauvre enfant, toujours sous le coup d'une agitation fiévreuse, était obligée de se contraindre lorsqu'elle se trouvait en présence de son hôte. Le docteur s'était aperçu de l'état d'esprit de la jeune fille, et il attendait le moment où, à bout de force pour dissimuler ses impressions, Henriette s'ouvrirait à lui de ses appréhensions et du trouble qui l'avait envahi. Ce moment ne devait pas tarder à arriver. Un matin, le docteur Hébert appela dans son cabinet Mademoiselle Gérard, qui, tout étonnée et croyant qu'il allait être question de la santé de l'aveugle, dit au médecin « Est-ce que ma pauvre sœur serait dans un état inquiétant ?» Puis, Monsieur Hébert ayant gardé le silence, « Vous pensez probablement, ajouta-t-elle, qu'il n'y a plus d'espoir de guérison et que l'infortunée est condamnée à rester aveugle ?»« Il ne s'agit pas de votre sœur, mon enfant, » dit le docteur avec intérêt. « Ce n'est pas sa santé qui m'inquiète en ce moment, mais bien l'état de votre esprit. »« Comment ? C'est de moi ? C'est pour vous parler de vous-même que je vous ai mandé ici. » Henriette regarda son interlocuteur avec inquiétude. « Mon enfant, reprit M. Hébert avec douceur, vous éprouvez une souffrance morale qu'il est urgent de combattre. » Henriette poussa un soupir. Ses joues s'empourprèrent sous le regard scrutateur du médecin. Cependant, elle ne répondit pas, comprenant qu'elle ne pourrait pas tromper ni l'homme ni le docteur. « Si je vous parle ainsi, poursuivit M. Hébert avec bonté, ce que je lis dans votre cœur et dans votre esprit aussi clairement que je le ferais dans un livre. Vous avez des appréhensions, dis-je, parce que vous redoutez un danger. » « C'est vrai, balbutia la jeune fille. Et ce danger, je le devine, c'est la découverte du stratagème que nous avons employé pour vous arracher au châtiment que l'on vous avait infligé dans un moment de colère, d'emportement aveugle, et que je n'avais pas mérité, interrompit Henriette en relevant la tête. Aussi, répliqua le médecin, n'est-ce pas en réalité contre vous qu'a éclaté d'abord la colère de M. de Lignières, mais bien contre le chevalier de Vaudray, dit Henriette, devenue plus tremblante encore. Et vous, pauvre enfant, vous avez subi le contre-coup de cette colère, vous avez été emporté dans son déchaînement. On a voulu punir le chevalier en vous frappant, et l'on vous a sacrifié sans pitié. Henriette tremblait sous le coup d'une émotion violente. Ce qu'elle venait d'entendre lui rappelait que le chevalier, lui aussi, avait été l'objet de rigueurs excessives. Elle se souvenait, Picard le lui avait dit à la salpêtrière, que Roger était enfermé dans un cachot de la Bastille. Le chevalier, enfermé, pour l'avoir aimé, pour avoir voulu lui donner son nom. Or, elle n'avait plus revu Picard, et elle ignorait ce qui, depuis lors, était advenu au chevalier. Elle était d'autant plus anxieuse que le neveu du lieutenant de police devait tenter l'impossible pour la délivrer. Ce n'était pas par son intervention qu'elle avait pu franchir libre les grilles de la salpêtrière. Que lui était-il arrivé? En cet instant où le docteur ravivait en elle des souvenirs que la vue de Louise avait momentanément endormis, Henriette brûlait d'interroger son protecteur au sujet de Roger. Mais elle parvint à contenir son impatience, et d'un ton ému, elle dit... « Celui qui a encouru les rigueurs de son parent a sans doute aujourd'hui à se repentir de n'avoir pas obéi à la volonté du comte de Lignières. Il souffre, assurément, de sa fermeté à résister aux ordres qu'il avait reçus. » Le docteur ne jugea pas à propos de la renseigner immédiatement sur le sort du chevalier. Prenant un détour pour en arriver à la question qu'il désirait adresser à Henriette et qui avait motivé la conversation qui s'échangeait en ce moment, il reprit. Je sais que si vous avez tant souffert, c'est que vous aviez été l'objet d'un amour. Que je n'avais pas provoqué, monsieur, s'écria Henriette tremblante.
Je le sais.
Oh, vous ignorez, s'exclama la jeune fille en s'animant, combien j'ai lutté contre la résolution qu'avait prise monsieur le chevalier de me donner son nom malgré la volonté de sa famille. Elle poursuivit en faisant un effort pour apaiser ses sanglots. Ah, s'il ne s'était pas montré sourd à mes paroles, que d'infortunes nous eussent été épargnées à tous les deux. Il ne serait pas prisonnier, lui, et moi, je n'aurais pas été enfermée avec de misérables filles perdues. Je ne serais pas forcée maintenant de cacher ma retraite et d'implorer votre pitié. Le docteur avait écouté sans interrompre. Sur ses traits se lisaient l'intérêt et la compassion que ressentait son cœur. Il se félicitait maintenant d'avoir aidé cette malheureuse jeune fille à se dérober à la vengeance du lieutenant de police. Mais il ne pensait pas que son œuvre de bienfaisance dût demeurer incomplète. Henriette, libre, restait encore sous le coup d'une nouvelle arrestation. Ce qu'il lui fallait obtenir pour elle, ce n'était plus seulement une grâce banale, mais une réhabilitation éclatante. Il ignorait encore comment il s'y prendrait pour atteindre ce but, mais il était bien décidé à mettre tout en œuvre pour y parvenir. L'important était d'agir avec prudence, afin de ne rien compromettre. Imbu de cette idée, M. Hébert voulut, en attendant, apporter un soulagement à la douleur de sa protégée. Et d'un ton paternel, il reprit. « Ne vous lamentez pas ainsi, mon enfant. Vous êtes arrivée, je l'espère, au terme de vos cruelles épreuves. Tant que vous habiterez chez moi, vous serez à l'abri des recherches. Soyez donc rassurée de ce côté. Quant à monsieur le chevalier de Vaudrey... » Henriette, en entendant prononcer le nom de Roger, avait eu un léger tressaillement. Elle essuya ses larmes et fixa sur le docteur un regard qui lui disait combien il lui tardait d'apprendre des nouvelles de son ami, de son sauveur. « J'ignore tout à fait, dit le docteur, ce qu'est devenu le chevalier, mais je puis vous certifier qu'il n'est plus à la Bastille. »«
Il est libre ? »
s'exclama la jeune fille en joignant les mains.
« Oui, fit le docteur, il est parvenu à s'évader de la Bastille et doit être à cette heure en sûreté dans quelque coin de la France. Qui sait, peut-être à Paris, où en dépit de la police du comte de Lignières, on peut souvent rester introuvable.
Je vous l'affirme enfin, le chevalier de Vaudrey n'est plus sous les verrous. » Henriette avait, en apprenant cette nouvelle, manifesté une joie très vive. Mais son front se rembrunit presque aussitôt. Elle se disait qu'il était bien singulier que ni le chevalier ni Picard n'eussent essayé de la revoir. Son cœur se serra à l'idée de cet abandon. Mais elle se tut pour cacher à l'homme de bien qui lui donnait asile ce mouvement de douleur. M. Hébert ne se trompa pas à ce silence, prenant dans les siennes les mains d'Henriette. « Pourquoi tremblez-vous ainsi, mon enfant ? » lui dit-il, « lorsque je vous parle du chevalier de Vaudrey, de son évasion et de la conviction où je suis, qu'il est à l'abri de toute poursuite. Pourquoi ? Il n'est pas difficile de le deviner. Vous aimez le chevalier ?» Henriette rougit jusqu'aux cheveux, mais elle ne protesta pas contre cette affirmation. Puis, comme elle trouvait inutile et mauvais de mentir, elle répondit avec un accent de sincère émotion. « Si c'est une question que vous me posez là, pour obtenir un aveu, je vous parlerai en toute franchise, monsieur le docteur. »« Je ne le nie pas, monsieur. J'ai éprouvé pour celui qui, au péril de sa vie, m'avait sauvé d'une odieuse machination ourdie contre mon honneur. J'ai éprouvé, dis-je, un sentiment de profonde reconnaissance. Plus tard, quand ce protecteur que la Providence m'avait envoyé me parla de sa sympathie pour moi, j'ai senti que la mienne lui était acquise. » Et depuis, j'ai vainement lutté contre mon cœur. J'ai vainement essayé de maîtriser cette affection chaque jour plus tendre pour mon protecteur. Vous savez le reste, monsieur. Le malheur est venu nous frapper tous deux au moment où chacun de nous avait épuisé tous les raisonnements. Moi, pour le convaincre de la nécessité de m'oublier, de ne pas persévérer dans un projet d'union irréalisable. Lui, pour me persuader qu'il surmonterait tous les obstacles. Il y eut un moment de silence. Après quoi le docteur reprit. Et après ses vains efforts pour faire violence, lui à vos hésitations commandées par le sentiment du devoir, vous au sentiment qui chaque jour se faisait plus impétueux dans son âme, vous en êtes arrivé à un résultat diamétralement opposé à celui que vous espériez atteindre. Vous l'aimiez toujours, et il lui a fallu se séparer de vous, le cœur plein de votre pensée. Si je vous parle ainsi, ajouta le docteur, ce n'est pas pour vous faire un reproche d'aimer le chevalier, mon enfant, mais bien pour m'occuper de vous, de vos intérêts, en connaissance de cause.
J'avais déjà la certitude que vous sauriez accomplir ce que vous considérez comme votre devoir d'honnête fille. J'étais persuadée que vous étiez la victime d'événements qui se sont imposés, mais que vous n'aviez pas cherché à faire naître. Et si j'ai désiré avoir avec vous cette conversation, c'est que je voudrais réparer, autant que possible, une criante injustice. Je veux que vous sortiez réhabilité comme vous méritez de l'être, de cette situation douloureuse. Il y a pour atteindre ce but bien des difficultés à aplanir, bien des colères à affronter. J'ai voulu vous en prévenir et m'assurer que vous serez docile à mes conseils, que vous suivrez la marche que je vous indiquerai, qu'enfin vous m'obéirez en tout point lorsque sera venu le moment d'agir. Maintenant, fit-il en terminant, allez, mon enfant, rejoindre votre chère aveugle. Un jour, je m'occuperai d'elle à son tour. Les choses en étaient là lorsque Roger, de retour à Paris, avait résolu de se rendre chez le docteur Hébert dans l'espoir d'obtenir de lui des nouvelles de l'orpheline. Le chevalier était arrivé tout bouillant d'impatience devant l'hôtel. Mais à peine le lourd marteau était-il retombé qu'une réaction se produisit chez le neveu du comte de Lignières. Il se demandait quelle réception lui ferait l'austère docteur. Aussi, lorsque la porte se fut ouverte devant lui, eut-il un mouvement d'hésitation avant de pénétrer sous le vestibule. « Monsieur le docteur Hébert » s'informa-t-il auprès du Suisse qui se présentait. Et sans attendre la réponse, tant il craignait d'apprendre que le médecin était absent, « j'ai absolument besoin de lui faire une importante communication de la part de monsieur le comte de Lignières, » ajouta-t-il. Au nom du lieutenant de police, le Suisse fit résonner une cloche et aussitôt un chevalier de pied parut sur le perron. « Qui dois-je annoncer à monsieur le docteur ?» dit le domestique. Le chevalier, au lieu de donner son nom, répondit « Annoncez une visite de la part du comte de Lignières. » Roger n'attendit que quelques secondes le retour du valet qui venait lui annoncer que le docteur Hébert l'attendait dans son cabinet. À son entrée, le médecin, sans quitter des yeux le livre qu'il lisait, fit de la main signe de s'asseoir. « Dites-moi, je vous prie, monsieur, ce qui vous amène. La comtesse serait-elle plus souffrante ?» Comme Roger ne répondait pas immédiatement, le docteur le regarda et le reconnaissant aussitôt. « Vous ici ? » dit-il. Le chevalier avait retrouvé toute sa présence d'esprit. « Excusez-moi de ne pas m'être fait annoncer, comme il eût été correct de le faire. Peut-être avez-vous craint, monsieur le chevalier, que je ne voulusse pas recevoir un évadé de la Bastille ? Je sais tout ce que je puis espérer de la bienveillance du vieil ami de ma famille. Si je suis venu à vous, c'est que je n'ignore pas que vous avez été plein de bonté et de pitié pour une infortunée, et que vous ne refuserez pas d'accueillir favorablement la prière que je vais vous adresser. Vous ne supposez pas, j'imagine, monsieur le chevalier, que je puisse donner asile à celui qui s'est mis hors la loi. Je ne viens pas, répliqua Roger, vous demander de me soustraire aux recherches dont je dois être l'objet de la part des agents de monsieur le lieutenant de police. J'avais, en me présentant ici, des préoccupations moins personnelles. Vous ne me ferez pas l'injure d'en douter. Vous qui savez maintenant pour quel motif j'ai été enfermé à la Bastille. Vous qui n'ignorez pas que je poursuis un but que tout galant homme poursuivrait à ma place, s'il s'agissait pour lui de réparer la plus criante injustice, le plus odieux attentat à la liberté et à l'honneur d'une femme digne du respect de tous. Et vous avez sans doute déjà compris le but de ma démarche auprès de vous. » Après avoir achevé cette phrase qu'il avait prononcée avec une certaine véhémence, Roger reprit d'un ton plus calme. « Veuillez m'excuser, cher docteur, de n'avoir pu modérer la fièvre qui m'agite depuis que je suis à la recherche de celle qui a été, je le sais, l'objet de votre généreuse protection à la Salpêtrière. Si je me suis intéressé, si je m'intéresse encore au sort de cette pauvre jeune fille, ce n'est pas une raison, dit le docteur, pour que je veuille braver les convenances que je dois observer à l'égard d'une personne digne du respect de tous. » De monsieur le comte de Lignières, enfin. Dans son espoir de retrouver Henriette, Roger n'avait pas réfléchi à l'embarras dans lequel il mettrait le docteur. Mais son exaltation aidant, il passa outre au ménagement que comportait sa démarche. Cependant, fit-il en contenant à grand-peine les éclats de voix qui s'échappaient de sa gorge contractée par l'anxiété, je ne dois pas ignorer le sort de la malheureuse enfant qu'on a frappée en voulant m'atteindre. Et ce n'est pas vous si compatissant, vous dont la bonté et la charité sont inépuisables, ce n'est pas vous qui consentirez jamais à ce que je sorte d'ici la mort dans l'âme.
à ce que j'en sois réduit à fouiller les rues de Paris à la recherche de celle dont je veux implorer le pardon, à qui je veux consacrer ma vie et donner mon nom. » Puis sans transition. « Vous avez, je le sais, arraché à Monsieur le comte de Lignières sa victime. Vous avez aidé l'innocente jeune fille à sortir de cette prison de la Salpêtrière. Vous savez donc où elle se trouve en ce moment. Vous le savez, car votre sollicitude pour le malheur n'a pu s'arrêter à la porte de la prison, si généreusement ouverte par vous à la pauvre Henriette. Puisqu'il en est ainsi, puisque vous seul pouvez me faire retrouver cette infortunée, cette victime, cette martyre, je vous en conjure, ne me laissez pas plus longtemps sous le coup de l'angoisse qui me torture. » Le médecin eut un mouvement pour saisir et serrer les mains du jeune homme, mais il le réprima aussitôt. Et se détournant à demi pour cacher son visage où se lisait l'émotion qu'il éprouvait, il répondit à Roger. « Tout ce qu'il m'est permis de vous dire, mon ami, c'est que celle à laquelle nous nous intéressons tous deux est aujourd'hui encore sous le coup de la douleur qu'elle a éprouvée, du désespoir qui l'a envahie lorsqu'elle s'est vue appréhendée au corps et traînée en prison. Cette incarcération est un crime. Dites une fatalité, répondit le docteur. Oui, c'est une déplorable fatalité qui a mis cette jeune fille aux prises avec les douloureux événements qui vous ont fait la rencontrer. C'est par une fatalité que l'on ne saurait trop déplorer qu'elle a laissé son cœur s'ouvrir à l'amour que vous avez su lui inspirer. C'est la fatalité qui vous a fait oublier combien sont insurmontables les obstacles qui se dressent entre la jeune ouvrière et le gentilhomme affolé d'amour. Eh bien, je lui ai juré, et si elle pouvait m'entendre en ce moment, je renouvellerais ce serment. Je jure encore que je renverserai ces obstacles auxquels vous faites allusion. Vivre avec elle et pour elle et lui donner mon nom, telle est ma volonté, qu'aucune puissance au monde ne saurait changer. Vivre avec elle ou mourir. Vous parlez de mourir, dit froidement le docteur, et vous oubliez la comtesse de Lignières qui vous a servi de mère? Vous oubliez qu'elle vous aime comme si vous étiez sortie de son sein? Mais qu'en vous perdant, elle ne survivrait pas à sa douleur? Le coup qui vous frapperait la tuerait aussi. Oh, mon Dieu! S'exclama Roger. Pourquoi évoquer le souvenir de cet ange en ce moment? Pourquoi opposez-vous sa maternelle affection pour moi au désespoir qui me brise l'âme? Parce que c'est mon devoir, Roger, de vous ouvrir les yeux sur l'état de la comtesse. Parce que je ne dois pas vous laisser ignorer la gravité du mal qui la consume. Parce que je ne veux pas, moi, l'ami de votre famille, votre ami Roger, je ne veux pas que vous vous berciez d'illusions sur le danger qui est là, à toute heure, à toute minute, au chevet de la chère malade. Parce qu'enfin, je dois vous avouer que la science n'a plus rien à tenter pour sauver la comtesse. Pour l'affection dont elle est atteinte, il faut un remède dont Dieu seul possède la formule. » Le chevalier de Vaudrey, en entendant ces terribles paroles, était demeuré muet, interdit. Une pâleur livide envahit son visage, et ses traits se contractèrent sous l'influence du trouble et de l'anxiété qui lui étreignait le cœur. « Quoi ? » fit-il, parvenant enfin à retrouver la voix. « Ma tante bien-aimée serait en danger de mort ?» La vie de Madame de Lignières ne résisterait pas à une émotion violente. « Je me serais fait un cas de conscience de vous le laisser ignorer, comme je me fais un devoir de vous dire que sa préoccupation constante est, vous sachant en désaccord avec le comte, de se demander quel en sera le dénouement. Et aujourd'hui qu'elle a appris la punition, que vous avez attiré votre résistance aux volontés de votre oncle et votre désobéissance aux désirs du roi, la pauvre dame est dans un état fort grave, infiniment plus grave qu'il y a quelques jours. C'est au point que j'ai dû lui interdire non seulement toute fatigue, mais encore de quitter le lit. » Roger se couvrit les yeux de ses mains et des larmes roulèrent le long de ses joues. « Oui, j'ai prescrit, » fit avec un soupir le docteur, « tout ce que je puis prescrire. Mais là se borne mon pouvoir. » Puis avec vivacité. « Ce qu'il faudrait, c'est que je puisse empêcher sa pensée de galoper au risque de briser le cerveau. C'est que je puisse obtenir que la patiente voulût consentir à oublier. » Le chevalier de Vaudrey eut un soubresaut et ses yeux, humides encore de larmes, se rivèrent scrutateurs sur le visage du docteur Hébert. Mais celui-ci ne s'interrompit pas. « Oui, fit-il, oubliez, je ne me trompe pas, j'en suis certain, cette souffrance que je ne puis combattre a une cause mystérieuse, quelque chose comme un souvenir, je n'ose dire un remords. »« Docteur, s'écria le jeune homme, dont le visage s'était subitement effaré.
Oh, ce diagnostic ne peut en rien atteindre l'honneur de la comtesse. Dieu me préserve de laisser mes paroles dépasser ma pensée. Je maintiens que si je parvenais à persuader à ma chère malade qu'il lui reste un rôle utile à remplir ici-bas, que sa présence sur la terre est indispensable au bonheur, au salut même de quelqu'un, la guérison qui jusqu'ici a résisté à tous les efforts de la science serait encore possible. Ne s'observant plus, le médecin s'attendrissait au spectacle de la douleur du jeune homme. Tout à coup, par une brusque diversion aux idées qu'il venait d'émettre, il s'écria. Mais en attendant que ce miracle s'accomplisse, il faut que par tous les moyens possibles, j'arrive à conjurer la crise que je redoute. Il le faut, chevalier, il le faut, et c'est pour cela que je m'adresse à votre cœur, à votre affection pour la comtesse. Il faut que vous m'aidiez à battre en brèche l'épuisement qui gagne chaque jour du terrain, alimenté par le chagrin. Et vous seul, en ce moment, pouvez accomplir ce prodige.
Moi? Moi? Oh, parlez, que faut-il faire?
Il faut retourner auprès de celle qui souffre tant de votre absence. Roger étouffa une exclamation de surprise.
Retourner à l'hôtel de Lignières?
Il le faut, vous dis-je.
Mais c'est me retrouver en présence du comte. C'est aller braver sa colère jusque chez lui.
C'est attirer sur moi sa vengeance augmentée de la colère qu'a dû lui occasionner mon évasion.
Que me conseillez-vous là, docteur?
Monsieur Hébert marchait à grands pas. S'arrêtant subitement devant le chevalier de Vaudrey, il lui dit avec une énergie qui contrastait avec sa douceur habituelle.
Quoi qu'il doive en coûter, autant à votre amour-propre qu'à votre amour, je vous dis, moi, qu'il faut que vous retourniez auprès de la comtesse. Et pour cela, vous devrez faire votre paix avec monsieur de Lignières.
C'est une soumission que vous m'imposez là.
Soit, admettez cela, il le faut.
Une capitulation indigne.
Serait-il plus digne de laisser périr votre tante?
Oh, docteur, docteur, ce que vous exigez, c'est le sacrifice de mon amour et aussi de mon honneur.
J'ai juré à celle que j'aime de vaincre toutes les résistances qui s'opposeraient à notre union. Et vous me proposez de manquer à mon serment?
Je vous adjure de vous rappeler que la comtesse se meurt. Et dans ce cas, une hésitation de votre part serait...
un crime.
Oui, s'il en est ainsi, je serai criminel en refusant de me rendre aux raisons que vous faites valoir.
Le malheureux jeune homme était dans un état d'agitation indescriptible. Les yeux hagards, le visage décomposé, les mains tremblantes, il marchait comme un fou, s'arrêtant par instants comme s'il allait prendre une résolution, puis se retrouvant plus irrésolu, plus troublé que jamais.
Le docteur le suivait du regard, épiant ses gestes désespérés, avec la certitude qu'il se faisait dans l'esprit du malheureux une lutte terrible, désespérée. Enfin, saisissant le bras du chevalier, il obligea celui-ci à s'arrêter devant lui, et calme comme un juge qui prononcerait une sentence.
« Vous connaissez votre devoir, Roger. Vous allez l'accomplir rigoureusement. Je ne veux pas vous faire l'injure d'en douter. »
Et comme le jeune homme, succombant à l'émotion, s'affaissait dans un fauteuil, M. Hébert ajouta
« Demain, vous retournerez à l'hôtel de Lignières. D'ici là, j'aurai préparé la comtesse à cet événement. Comment, je l'ignore encore, mais je trouverai. »
Puis, serrant la main du chevalier, atterré et vaincu.
« En outre, Roger, continua-t-il, je ne saurais me faire fort d'obtenir du comte qu'il vous épargne des reproches violents. Mais comptez sur moi pour tout tenter dans ce sens. »
Monsieur de Vaudrey se leva d'un bond. Fixant son regard sur le docteur, il s'écria d'une voix déchirante.
« Et elle, l'autre victime, celle qui aura le droit de me trouver lâche, misérable. Elle vous estimera, comme on estime l'homme qui remplit religieusement son devoir. Elle aura pour vous l'affection pure et sainte que l'on réserve pour ceux qui font capituler leur amour devant l'abnégation qui doit sauver un être qui a droit à tous les dévouements, à tous les sacrifices. »
Roger avait courbé le front et des larmes inondaient son visage.
« Et qui sait, continua le médecin, si vous n'aurez pas un jour à vous féliciter d'avoir suivi mon conseil. »
« Que voulez-vous dire par là ? » fit le chevalier en dardant des regards anxieux sur son interlocuteur.
« Espérez, espérez toujours, » répondit M. Hébert en lui serrant affectueusement les mains.
« C'est la seule consolation que je puisse vous accorder, pour l'instant. Mais elle a sa valeur, mon ami, et il ne dépendra pas de moi, je vous le promets, que votre rêve le plus cher ne se réalise. »
Dans l'état d'esprit où se trouvait le chevalier de Vaudrey,
Les dernières paroles du docteur eurent pour effet de réveiller le souvenir d'Henriette au moment où le sacrifice que commandait la situation de la comtesse avait complètement envahi sa pensée. Le jeune homme crut l'instant favorable pour obtenir du docteur qu'il se départît un peu de la discrétion dans laquelle il s'était renfermé en ce qui concernait l'endroit où se cachait Mlle Gérard. Il s'adressa à M. Hébert en des termes si émus qu'il finit par obtenir cette réponse qui le combla de joie. « Vous m'avez donné la preuve tout à l'heure que votre cœur était haut placé. Je vais à mon tour vous donner une preuve de la confiance que j'ai en vous. » Roger, au comble de l'anxiété, attendait ce qu'allait dire le médecin. M. Hébert continua. En quittant la salpêtrière dans les conditions que vous savez, il était indispensable que celle qui venait de bénéficier d'une liberté inespérée ne pût être rencontrée ou découverte. Il lui fallait trouver un asile sûr, où l'on ne songeait pas à venir la chercher, si par malheur on parvenait à découvrir la substitution de personnes opérée au moment du départ des déportés à la Louisiane. Or, je trouvais cet asile. « Henriette est ici, ici même !» s'écria le chevalier de Vaudrey, debout, les mains levées au ciel, dans un mouvement de joie immense. Et se précipitant sur les mains du docteur, il les retint, emprisonnées dans les siennes, en murmurant d'une voix assourdie par une émotion insupportable. « Oh, merci, merci ! Voilà bien cette charité que tout le monde admire en vous, cette bonté d'âme qui fait de vous le bienfaiteur des pauvres, la providence de ceux qui souffrent !» Roger avait conçu instantanément l'espoir que, grâce à la présence de la jeune fille chez le docteur, il allait la voir. Son enthousiasme se ressentait évidemment un peu de ce bonheur inespéré de se retrouver auprès d'Henriette. Et s'adressant au docteur, « Combien ne vous dois-je pas de reconnaissance, fit-il, d'avoir permis que je revisse celle dont l'absence avait brisé mon âme. » Mais M. Hébert l'interrompit aussitôt par ces mots prononcés d'une voix grave. « Vous n'avez pas espéré, je suppose, chevalier, que je tolérerais ici une entrevue entre vous et celle à qui j'ai offert l'hospitalité ?» Il n'a pu vous venir à la pensée de croire que je consentirais à devenir le complice de vos amours, même pures comme elles le sont, alors que j'ai limité mon rôle à la protection accordée à une victime. » M. de Vaudrey perdit subitement toute la joie qui avait d'un instant éclairé son visage. L'attitude du médecin avait promptement calmé son esprit. Le gentilhomme comprenait bien qu'il n'y avait pas à insister. Au surplus, M. Hébert avait repris avec bonté. « Le jour où vous reverrez Mlle Gérard n'est peut-être pas très éloigné, et ce jour-là, vous aurez le droit de proclamer bien haut votre amour. »« Que dites-vous là, docteur ? Je prétends qu'à moins de devenir correctement l'époux de celle que vous aimez, il ne doit plus y avoir entre elle et vous de relation à un titre quelconque. Je dis que ce serait faire injure à la vertu de Mlle Gérard que de supposer qu'elle consente jamais à vous revoir sans y être autorisée. » « Par qui ? Par qui donc ? Par celui qui est devenu le chef de votre famille et qui seul peut autoriser un rapprochement entre vous et celle que vous avez choisie comme fiancée. » « Le comte de Lignières ? Oui, votre oncle. Mais c'est impossible. Dans ce cas, vous devez perdre l'espoir de revoir Henriette. Mais ne savez-vous pas, docteur, que ce serait de me condamner au plus épouvantable supplice ? Je sais que c'est le devoir de tout honnête homme d'éviter de compromettre celle qu'il aime. » Le chevalier de Vaudrey courba la tête et, commandant à la souffrance morale qu'il éprouvait et aussi à l'expression convulsée de son visage, répondit avec dignité. « Je vous remercie, docteur, d'avoir de Mlle Henriette Gérard la bonne opinion que vous venez d'émettre. Et puisque je dois viser à la plus absolue correction dans cette affaire de cœur, je ne faillirai pas à cette obligation. » Il avait fait un pas vers la porte. Se tournant vers le médecin, « Je me rends à votre désir. Je me retire. » M. Hébert lui tendit la main et le retenant auprès de lui. « Vous n'oublierez pas, Roger, lui dit-il du ton le plus affectueux, que vous avez consenti à retourner chez le comte de Lignières. » « C'est vrai, murmura le chevalier. De mon côté, je vous ai donné l'assurance que je préparerai la voie à une entrevue. » Roger s'inclina. « Donc, avant de vous présenter à l'hôtel de Lignières, nous devrons indispensablement nous revoir. Reviendrai-je ici ? » Après quelques secondes d'hésitation, le médecin répondit « Non. Ce serait renouveler aussi inutilement que cruellement une épreuve dont j'en conviens avec satisfaction
vous sortez à votre honneur, mais non sans une violente secousse pour votre âme. Nous nous reverrons.
Où cela ? Demanda vivement Roger.
À l'hôpital Saint-Louis, demain à 10 heures, avant que je ne commence mes visites aux malades.
J'y serai.
Dois-je vous recommander d'observer d'ici là la plus grande prudence dans vos promenades et vos courses dans Paris ?
Puis se frappant le front. Au fait, je ne pensais plus à vous demander où vous habitez pour le moment.
Il pourrait se faire que j'eusse absolument besoin de vous voir sur l'heure, soit de correspondre avec vous.
Sans répondre, le chevalier de Vaudrey s'approcha du secrétaire et inscrivit sur un feuillet de papier l'adresse de l'hôtellerie où il était descendu, tout au bout du faubourg Saint-Honoré.
« J'attendrai votre avis, dit-il. »
Il salua le docteur et sortit avec précipitation du cabinet. La lourde porte cochère roula sur ses gonds. Le chevalier de Vaudrey se trouva dans la rue. Tout à coup, en voulant jeter un dernier regard sur cet hôtel où sa bien-aimée avait reçu l'hospitalité, il aperçut un visage de femme derrière la vitre d'une croisée. Roger étouffa un cri. Il venait de reconnaître Henriette. Au même instant, la vision disparut, tandis que le chevalier de Vaudrey demeurait à la même place. Quel vague espoir le retenait là, les yeux fixés sur cette croisée ? Le pressentiment qui vient aux amoureux, peut-être ? En effet, une minute ne s'était pas écoulée que la croisée s'ouvrait. Mais cette fois, deux têtes de jeunes filles s'y encadraient. Henriette désirait faire ainsi savoir à son protecteur qu'elle avait enfin retrouvé sa chère aveugle, qu'ils avaient tant et si longtemps vainement cherché ensemble. Le chevalier de Vaudrey s'inclina pour indiquer qu'il comprenait, et la double vision disparut. Alors Roger, fou d'émotion, s'enfuit sans vouloir retourner la tête.